Bonjour à tous, je suis Boreil, l'auteur du livre Musique 2.0, un livre édité par l'IRMA et préfacé par Olivia Bécassis, le directeur de Watt. À la lecture de ce podcast, Céline Giusiano, à la prise de son, Yann Lamballé, et à la conception sonore, Fabien Skillant. Et tout de suite, voici votre podcast.
Les 4 P classiques démodés. Les jeunes consommateurs ont basculé sur la toile en emportant avec eux la demande et donc le marché. Le secteur du disque est en train de se décomposer par certains aspects dans le domaine physique pour se reconstruire dans le monde virtuel. Mais est-ce que les certitudes du monde physique sont valables sur le web ? Sur Internet, les notions d'espace et de temps ne peuvent être exploitées comme à l'accoutumée. D'ailleurs, la notion d'espace n'existe pas vraiment sur le web. Un fichier en ligne est à la fois sur son serveur et accessible de partout, à n'importe quelle heure. L'absence de support pour les fichiers musicaux leur donne une longévité quasi infinie. Ces fichiers sont utilisables aussi bien par une personne habitant à New York qu'à Tokyo ou Paris. Les 4 P, structurés par l'espace et le temps, ont-ils encore leur place ? La restructuration du marché ne peut donc se faire à l'identique, au risque de voir une incompatibilité entre les anciens modèles économiques et le nouveau marché. Le produit. La dématérialisation de la musique a donc remis en cause les fondamentaux du marketing. Dans un premier temps, il faut remettre en cause le CD en tant que produit. Celui-ci a déjà 20 ans et arrive à la fin de son cycle de vie, raccourci avec le développement exponentiel des nouvelles technologies. Tout comme le vinyle et la cassette audio, une nouvelle technologie vient remplacer le CD. Pour écouter de la musique numérique, il faut désormais utiliser des lecteurs MP3. Ces lecteurs, plus petits, plus ergonomiques et surtout plus esthétiques, ont rendu le CD complètement obsolète. Le succès de ces appareils a de plus contribué à accroître le téléchargement en ligne. Ces dernières années, les stratégies marketing n'ont touché que les cibles ayant peu d'affinité avec les nouvelles technologies. Elles sont par conséquent inadaptées face à la disparition du support. Le budget marketing accordé au développement et la promotion d'un album en ligne reste extrêmement faible dans les maisons de disques. La numérisation de la musique a aussi mis le produit à nu, dépourvu de packaging, d'apparence et a désarmé les majors malgré leur arsenal promotionnel important. Comment communiquer sur un produit qui n'a pas de packaging ? Comment façonner une image à un produit invisible ? Voici les nouveaux dilemmes que rencontrent les maisons de disques. Le prix. La conversion d'une œuvre au format MP3 a contribué à dévaloriser le prix d'un CD aux yeux du public. Logiquement, la disparition des coûts engendrés par le packaging, la distribution et le stockage aurait dû permettre une baisse des prix de la musique numérique. Le CD est trop cher, à l'évidence, vendu en moyenne entre 17 et 20 euros en prix nouveauté. Cette inadéquation entre le prix et la dévalorisation du CD a contribué à ternir l'image du support physique auprès des clients. Or, le positionnement par le prix est une stratégie qui a auparavant permis aux maisons de disques d'accroître leurs ventes entre 2000 et 2002. Cette stratégie se retourne contre elle, puisqu'inadaptée au nouveau comportement des consommateurs, habitués à attendre les promotions et le passage en mid-price pour acheter des CD. L'ancien directeur du secteur disque de la FNAC, Rodolphe Buet, affirmait en 2004 que seuls les éditeurs sont responsables de l'augmentation du prix du CD, oubliant que les grandes surfaces spécialisées, GSS, comme la FNAC, sont aussi à l'origine de la hausse des prix. La politique de prix vert avait pour but, dans un premier temps, de faire bénéficier des nouveautés aux consommateurs à un prix abordable. Mais rapidement, on a pu observer des prix verts à 20 euros le nouvel album, imposé par la GSS. Face à cette hausse des prix, il s'est opéré un transfert de budget du CD vers le DVD, ou d'autres produits culturels. Si l'on regarde le marché du livre, celui-ci a fait plus 6% l'an dernier, le marché de la vidéo a fait plus 18,8%, affirmait Rodolphe Buet pour illustrer la concurrence indirecte des autres produits culturels. De plus, les jeunes sont de très gros consommateurs de téléphonie mobile, et le coût de leur abonnement téléphonique a considérablement grévé leur budget loisir. La place de la musique sur Internet. Face à la croissance des ventes de musique en ligne, les maisons de disques mesurent enfin l'importance de ce nouveau moyen de distribution de la musique. Cependant, les premières plateformes de téléchargement légal ont été créées par des entreprises de contenants comme Apple, fabricant de l'iPod ou par des fonds d'investissement et de capital risque qui ont fixé le prix du titre et de l'album. Dans un premier temps, les labels n'ont pas bénéficié des sources de revenus issues des ventes de musique numérique. Universal France étant la seule exception, puisque son site de téléchargement a été créé en novembre 2001. Ce n'est qu'un an plus tard qu'est arrivé Virgin Mega, et 3 ans après que Sony a mis en ligne Sony Connect. La concurrence exponentielle sur le marché a poussé ces nouveaux distributeurs à mettre en place des partenariats avec les fournisseurs d'accès haut débit, les fabricants de lecteurs MP3, de software ou même de produits destinés aux jeunes afin de conquérir et fidéliser de nouveaux internautes. Ainsi, dès 2005, Pepsi met en place l'opération Pepsi Music Play, une plateforme de téléchargement musical en collaboration avec Virgin Mega. Les internautes inscrits peuvent y retrouver une sélection de tubes. Lors du lancement du site, un jeu, organisé sur le portail de MSN, faisait gagner des titres à télécharger. Entre mi-avril et fin juin, le site aurait accueilli 1,8 million de visiteurs uniques, ce qui correspondait aux objectifs fixés. La promotion sur Internet. La création de sites dédiés aux artistes par leurs fans montre bien qu'Internet a bouleversé les modes de consommation et de communication. Désormais, le net regorge de forums alimentés par les dernières rumeurs et autres nouvelles. En 2000, les majors décident de créer les sites officiels de leurs artistes. Si la tendance démarre lentement, les dépenses pour l'élaboration d'un site restent très limitées. Les coûts allant de 50 000 à 75 000 euros, selon la qualité exigée et surtout selon la rentabilité de l'artiste. Le rapport entre coût et exposition rend le site internet plus avantageux. En outre, il est impossible d'exposer un clip à la télévision 24 heures sur 24. Pour accroître sa fréquentation et générer de l'audience, un site doit régulièrement proposer des contenus riches, extraits de morceaux et des clips vidéo, et des opérations. Outre la négligence commise avec le MP3, il semble qu'en 2000, les majors n'avaient pas bien mesuré l'utilité d'Internet peu avant la crise. Il y a 5 ans, les labels misaient sur la création de sites très performants comme vitrine des artistes et de l'entreprise, mais ne pensaient pas que le web pouvait être une source de revenus. Encore inconscientes de leur retard, les maisons de disques croient avoir innové dans ce domaine. Julie Marlois, responsable du département Internet et nouveaux médias chez Sony, affirme que l'utilisation de sites web d'artistes montre une prise de conscience en interne pour l'utilisation d'un outil marketing efficace et opérationnel. Alors que Christophe Palâtre, directeur marketing chez Virgin, insiste sur le fait qu'un site original permet de toucher d'autres gens que les fans et d'avoir une visibilité en presse professionnelle. Et ce dernier de rajouter que le site d'artiste peut être un vrai média dans le sens vecteur de communication. Ce qui favorisera, on l'espère, l'achat d'un CD ou d'autres produits musicaux. Internet est donc encore considéré comme un média et non comme un réseau de distribution et de diffusion. Les investissements marketing y demeurent majoritairement dédiés aux médias de masse. Retrouvez dans Musique 2.0 un exemple de ce qu'une major pouvait investir en 2005 pour la promotion d'un groupe de musique.